enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ok, gloire au Seigneur. Nous allons continuer notre sujet de la fois passée. Donc, la foi, l'espérance, l'amour. Nous allons, pour partir sur le premier texte, c'est-à-dire le texte de 1 Corinthiens, et puis on enchaînera avec d'autres textes concernant le sujet d'aujourd'hui. Donc, 1 Corinthiens, le chapitre 13. Je vais lire comme la fois passée à partir du verset 11e. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On a commencé un sujet merveilleux qui était la foi. On dit que nous allons parler de la foi, de l'espérance et de l'amour. On va continuer sur la foi aujourd'hui. On a vu donc la fois passée que la foi, c'était tout simplement la ferme assurance, telle que le dit Hébreux 11, hein, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand nous avons développé notre texte, nous nous sommes rendus compte que la foi aussi, c'était justement cette folie que Dieu nous donnait pour pouvoir confondre le monde par la folie. Parce que le monde d'aujourd'hui s'appuie sur ses connaissances. Le monde d'aujourd'hui se dit développé à cause de ce que l'être humain a développé. Mais Dieu voit les choses autrement. Au travers de la parole de Dieu qui semble être aujourd'hui une folie pour les hommes, nous savons que c'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Et la sagesse qui vient de Dieu, c'est la sagesse parfaite. Parce que notre Dieu, c'est la sagesse même. Donc la foi, c'est cette folie-là que Dieu nous donne. La folie par laquelle nous démontrons la grandeur de Dieu. La folie par laquelle nous nous approchons de Dieu. La folie par laquelle nous avons une certaine confiance en Dieu. Une confiance totale, une confiance sûre, une confiance inébranlable. Parce que nous avons cru en son Fils qui est le rocher des âges. Et nous avons bâti sur lui. Et nous savons que même si la tempête se lève, la maison tiendra parce que celui sur qui nous avons bâti, il est inébranlable. C'est le rocher solide. Et aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de plus de la foi. Nous allons lire un passage. Nous allons revenir à Hébreux. Hébreux, le chapitre 11. Hébreux, le chapitre 11, le verset 6. On dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Nous allons prendre Romains 4. Romains 4, le verset 1 à 5. On dit ceci. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. La foi, c'est aussi le moyen par lequel nous qui avons cru, ou nous les chrétiens, nous devenons agréables auprès de Dieu. C'est le moyen par lequel les hommes deviennent agréables au Seigneur. Hébreux 10 dit ceci, Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. L'auteur d'Hébreu, en évoquant, en écrivant cette lettre, en arrivant précisément à ce chapitre-là, à ce passage-là, il a une révélation prophétique de ce qui s'est passé dans les cieux. L'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'approche et auprès du Père est fait comprendre une chose. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Donc, à un moment donné, le Seigneur a rejeté tout ce que la loi avait institué, tout ce qu'il avait institué au travers de la loi. C'est-à-dire, les hommes savaient parfaitement bien qu'après avoir péché, il leur suffisait tout simplement de revenir auprès du sacrificateur avec tout ce que la loi demandait pour pouvoir obtenir que leur péché soit couvert par le sang de ce sacrifice-là. Leur péché n'était pas effacé, mais les péchés étaient couverts. Et à un moment donné, ce passage dit très bien que le Seigneur, Dieu, refuse et met de côté toutes ces choses-là. Et le Seigneur Jésus-Christ maintenant se présente, étant l'agneau de Dieu, en disant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Parce que tu m'as donné un corps, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Et en ce moment-là seulement, le Seigneur agrée maintenant le sacrifice de l'agneau de Dieu, qui est l'agneau parfait. Dieu agrée simplement ce sacrifice-là, parce qu'il croit au Père. Le Fils croit au Père. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as donné un corps. Me voici, je viens faire ta volonté. Et en ce moment-là, Dieu agrée. Et la seule manière pour nous aujourd'hui, les humains, d'être agréables à Dieu, la seule manière pour nous aujourd'hui, les chrétiens, d'être agréés, que tout notre être, que toute notre vie soit agréée par le Seigneur, c'est tout simplement nous aussi, de venir nous identifier au sacrifice de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, désormais, ne veut plus que des personnes se sacrifient. Nous n'avons plus, nous, à monter sur la croix. Parce qu'il y a une personne qui est passée sur le bois maudit, à notre place. Et tout ce que Dieu nous demande aujourd'hui pour qu'il puisse nous agréer, pour que nous, à nouveau, nous puissions avoir une place dans le cœur de Dieu, devant la présence de Dieu, c'est tout simplement de s'identifier au sacrifice de Jésus-Christ. Alors, en ce moment-là, nous devenons agréables à Dieu. Et pour s'identifier à ce sacrifice-là, il faudrait d'abord commencer par croire. Et là, la foi intervient. C'est cette foi-là qui nous permet de nous identifier justement à Jésus-Christ, à son œuvre salvatrice, qui est tout simplement la mort et la résurrection. Parce que après que le Seigneur ait guéri des malades, après qu'il ait ressuscité même des morts, si lui, à son tour, il n'était pas monté à la croix, et qui n'avait pas donné sa vie, si le sang n'avait pas coulé, et si après toutes ces choses, le Seigneur mis au tombeau n'était pas ressuscité, notre foi aurait été vaine. Il n'aurait pas eu de sens. Et aujourd'hui, nous savons que la foi que nous avons ne s'appuie pas sur un Dieu qui est mort, mais notre Seigneur est vivant. Il est vivant. 1 Jean 2, 1 dit que il est le seul qui est auprès du Père, qui intercède pour nous, qui défend notre cause. C'est le seul médiateur que nous avons auprès du Père. Et nous, nous croyons à cela. Nous n'avons pas assisté au conseil de Dieu. Voyons le Seigneur Jésus-Christ en train de prendre notre défense. Mais nous croyons tout simplement que par son œuvre, sa mort et sa résurrection, nous avons la vie au travers de cela. Et que si réellement nous nous identifions à cette mort et à cette résurrection, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous acceptons de mourir et de ressusciter avec le Seigneur, alors seulement nous devenons agréables à Dieu. Mais il faudrait croire. Le Seigneur a regardé Ponce Pilate et lui a dit, non, si je voulais faire intervenir une grande armée pour me délivrer en ce moment-ci, je pourrais bien le faire. Personne ne m'arrache la vie, personne ne me ôte la vie, mais je la donne. Pourquoi je la donne? Parce que je sais que j'ai le pouvoir de la reprendre. Il avait la totale confiance au Père. Il savait que tant que le Père vit, moi le Fils, tant que je le suis agréable, moi le Fils, j'aurai toujours la vie. Il n'a pas eu peur de mourir, d'être enseveli. Il savait et il avait confiance au Père. Et par la puissance de Dieu, il est revenu à la vie. Et c'est le risque, la folie que nous aussi nous prenons. Et c'est le seul moyen par lequel nous devenons agréables à Dieu. C'est-à-dire que nous nous identifions, nous disons, oui Seigneur, nous acceptons de mourir. Parce que nous savons pertinemment bien et de manière inébranlable que nous allons ressusciter. Parce que Christ est mort et ressuscité, alors notre vie a une valeur, notre foi a un sens. Parce qu'il est mort et il est ressuscité. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc la foi, c'est le moyen par lequel nous, les humains, nous pouvons être agréables à Dieu. Aujourd'hui encore, les hommes pensent que c'est par leurs bonnes œuvres qu'ils pourront gagner le cœur de Dieu. Non. Les bonnes œuvres, ce n'est que l'expression extérieure de la foi que nous avons à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit de faire du bien, tu feras du bien à ton prochain. Parce que c'est la parole qui est gravée dans ton cœur, en laquelle tu as cru et en laquelle tu mets toute ta confiance, qui te demande de le faire et tu le fais avec amour et avec joie. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus une contrainte pour toi. Tu crois et tu le fais. Et c'est ça la foi. Le passage de Romains que nous avons lu nous parle d'Abraham. La Bible nous dit que Abraham crut en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Abraham a cru en Dieu, contre toute espérance. Il était vieux. Le Seigneur lui a dit, tu auras un enfant. Le Seigneur lui a dit, quitte ta patrie. Le Seigneur lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham crut. Et parce que tout simplement il a cru, le Seigneur, la Bible dit, le lui a imputé à justice. La foi nous permet d'être agréable à Dieu. Et quand nous sommes agréables à Dieu, Dieu nous accorde, il nous affecte sa justice. Tout simplement. Dans sa grâce, Dieu nous accorde, il nous affecte cette justice. Abraham crut à Dieu. Quand on fait une bonne œuvre, on reçoit un salaire, mais cela est un dû. Cela est un dû. Mais Abraham a tout simplement cru. Et parce qu'il a cru, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, parce qu'il s'est identifié à Dieu, tout ce qu'il avait de plus cher, il était prêt à le donner même pour le Seigneur. Et cela a touché le cœur de Dieu. Ce n'était pas la richesse qu'Abraham avait qui a touché le cœur de Dieu, non. C'est la foi qu'Abraham a eue qui a fait que Abraham a touché le cœur de Dieu. Abraham a obtenu une promesse qui continue de se réaliser jusqu'aujourd'hui. Parce que ta présence, ma présence en ce lieu, justifie encore de cette promesse faite à Abraham. Je ferai de toi sortira une grande nation. Et nous sommes aussi cette nation qui sort du sein d'Abraham. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham, spirituellement parlant. Parce que tout simplement Abraham a cru. Et Dieu le lui a donné. Et quand on a la justice de Dieu, quand on est agréable à Dieu, alors en ce moment-là, il se passe des choses dans notre vie. Parce que nous avons la justice de Dieu, celui qui est agréable à Dieu et qui a la justice de Dieu. Proverbe 12:21 dit, le malheur n'atteindra pas la maison du juste. C'est parce qu'on est agréable à Dieu à cause de notre foi. Proverbe 12:21 dit, le malheur n'atteindra pas la maison du juste. Parce qu'on a la justice de Dieu et que nous avons été agréables à Dieu, Dieu agrée maintenant notre vie. Parce que couverts du sang de l'agneau, nous avons accès dans la présence de Dieu. Proverbe 15:6 dit que nous aurons de l'abondance. Le juste aura de l'abondance. Nous allons prendre rapidement ces passages afin que ces vérités, que notre être tout entier se nourrisse de ces vérités, de nos yeux, de nos oreilles. Proverbe 15, 6 dit ceci. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Proverbe 15, 29 dit, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Proverbe 28, le premier verset nous dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand nous avons la justice de Dieu, parce que tout simplement il nous l'a accordé à cause de la foi, nous sommes agréables au Seigneur, le malheur ne nous atteint pas. C'est-à-dire que le malheur peut se présenter sur notre chemin, le malheur peut se présenter dans notre vie, les problèmes peuvent arriver dans notre vie, mais l'Éternel ne s'éloigne pas de nous. L'Éternel nous secourt dans notre malheur. J'aime souvent à dire aux chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il n'y aura plus des problèmes dans notre vie, non. Il y en aura toujours. On ne peut pas empêcher les oiseaux de survoler notre tête. Non. Tous les jours, il y a des oiseaux qui survolent notre tête. Ils passent au-dessus. Mais on peut les empêcher de construire un nid sur notre tête. Donc les problèmes, il peut en arriver. C'est normal, ça arrive. Du reste, c'est l'homme qui a ouvert la porte au péché. Le monde s'est compliqué depuis qu'on a donné accès au péché. Mais l'Éternel empêche à ce que les problèmes, les souffrances s'installent dans la vie de celui qui croit et qui met sa confiance en lui. Et quand on se retrouve dans des problèmes parce qu'on a commis une erreur, parce qu'on n'a peut-être pas fait confiance en Dieu, et des fois il ne faut que quelques secondes de manque de confiance en Dieu pour que la catastrophe arrive dans notre vie, l'Éternel est toujours là pour secourir celui qui met sa confiance à cause de la foi. Parce que c'est au travers de la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et quand tu es agréable à Dieu, tu as une place de choix dans le cœur de Dieu. L'Éternel veille sur toi parce que tu es la prunelle de ses yeux. Et le juste vivra par la foi. Donc, simplement avec la foi, on peut vivre. Simplement avec la foi, on peut résoudre nos problèmes. Simplement avec la foi, nous avons de l'assurance sur le chemin de la vie où il y a beaucoup d'embûches, où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup d'obstacles, où il y a des questions des fois qui restent sans réponse. Mais même quand on n'a pas ces réponses, on sait qu'à cause de la foi, nous sommes agréables à Dieu parce que nous croyons en Dieu et Dieu, parce que nous croyons fermement en lui, il nous l'impute à justice. Comme il a fait pour Abraham. Et étant les enfants d'Abraham, par la foi, nous héritons des promesses données à Abraham. Ce sont des promesses qui nous sont légitimes. Nous pouvons les réclamer haut et fort devant la présence de Dieu parce que c'est notre héritage. C'est notre héritage. Nous sommes les enfants d'Abraham, mais par la foi. Tout simplement par la foi. Ce n'est pas à cause du lien du sang, ce n'est pas à cause du lien de la chair, mais la foi. Tout simplement. À ceux qui l'ont cru, à ceux qui ont cru en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est Jean qui dit dans son premier chapitre. Tout simplement, à ceux qui ont cru et à ceux qui l'ont reçu, tout simplement, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas que nos enfants ont une place de choix dans nos cœurs? Tout simplement. N'est-ce pas que nos enfants nous sont agréables? Certainement. Et on obtient bien des choses parce qu'on a placé notre foi en Dieu. Oui, il y en a qui parlent de l'incrédibilité en disant « je ne crois pas ». Je ne crois pas en Dieu. Il y en a qui disent « oui, je suis athée ». Moi, je leur dis « oui, Mais si vous ne croyez en rien et que si Dieu n'existe pas, pourquoi vous combattez quelque chose qui n'existe pas? Pourquoi vous vous donnez tant de peine à démontrer ce qui n'existe pas? C'est que quelque part au fond de vous, la pensée de l'éternité que Dieu a placée dans le cœur parle, même si on cherche à l'étouffer. La crédibilité, ce n'est pas forcément de l'ignorance. Non. Je crois que ces personnes-là savent. Je crois que dans le cœur de ces personnes-là, il y a un brin de vérité. Il y a une semence de vérité qui est peut-être étouffée. Mais c'est tout simplement l'incapacité de croire. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité. J'ai dit incrédibilité. Incrédulité. L'incrédulité, tout simplement. Ce n'est pas l'ignorance ni l'incapacité de croire, l'incrédulité. C'est tout simplement le désir de se soustraire à Dieu et de s'affranchir de sa souveraineté. Oui, je suis incrédule. Oui, je ne crois pas. Non. Dieu existe. Mais tu veux justement te mettre à côté de la puissance de Dieu. Tu veux tout simplement te soustraire à la souveraineté de Dieu. Et les humains préfèrent le justifier en disant, je suis incrédule, je ne crois pas, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. C'est encore mieux de prendre le risque, comme je disais hier, de croire, et même si c'était faux, on aura cru, que de prendre le risque de ne pas croire. Et le dernier jour, qu'est-ce qui arrivera? Si c'est vrai, et si c'est faux, c'est un danger. L'homme veut tout simplement se soustraire à la souveraineté de Dieu. Et il croit que par son propre moyen, il peut faire plaisir à Dieu. Alors que Dieu a tracé un chemin. En dehors de ce chemin, personne ne peut lui être agréable. Et ce chemin-là, c'est la foi en Jésus-Christ, son Fils. La foi nous permet de toucher aux choses qui sont dans le spirituel, aux choses qui sont dans la pensée de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9, 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qui qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituellement, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Ce sont des choses, nous dit la Bible, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Des choses que Dieu a préparées pour nous, a préparées pour ceux qui l'aiment. La Bible dit des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, exclusivement pour ceux qui l'aiment. Alors d'autres diront, mais tiens, Dieu est injuste, donc c'est un cercle fermé. Non, parce que tout le monde peut aimer Dieu. Et quand je dis aimer Dieu, c'est-à-dire tout le monde peut avoir la foi de croire en Dieu et de faire partie de ces privilégiés-là. Ceux-là pour qui Dieu a mis des choses en réserve, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Donc des choses qui sont encore dans le spirituel, des choses qui dépassent notre entendement, mais que Dieu a préparé pour nous. Et c'est par la foi que nous possédons ces choses-là. C'est par la foi que nous saisissons ces choses-là, qui sont dans le cœur de Dieu, qui sont dans la pensée de Dieu. Parce qu'on croit. Quelles sont ces choses? La Bible n'a pas détaillé. Elle nous dit tout simplement des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Quoi exactement, on ne sait pas. Parce que c'est dans la pensée de Dieu, c'est dans le cœur de Dieu. Donc la foi nous permet justement d'entrer, si je peux dire, dans le cœur de Dieu, de saisir tout ce qu'il a mis en réserve pour nous, de nous approprier de ces choses et de vivre ces choses. De vivre ces choses. Donc c'est comme si quelque part on pourrait se dire, ce qu'on a déjà vu, on peut faire un bilan, on se dit oui, ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà vu avec Dieu, puisque l'œil a vu, puisque l'oreille a entendu, puisque c'est déjà monté dans mon cœur, donc c'est déjà passé, il y a encore mieux. Il y a encore mieux, il y a encore plus. Mais c'est par la foi que je crois en ces choses. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le Seigneur fera avec moi demain, dans 10 ans, dans 20 ans? Mais je sais qu'il fera des grandes choses. Je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je sais qu'avec Dieu, je réussirai. Je sais qu'avec Dieu, ma vie est sur le droit chemin. Je sais qu'avec Dieu, j'aurai la vie éternelle. Comment viendra ce royaume? De quelle manière viendra ce royaume? À quand ce royaume, comme disaient les disciples du Seigneur quelques instants avant qu'il monte au Père? À quand le royaume? À quand la restauration de ce royaume? Il ne nous a pas donné à nous de connaître le jour, l'heure. Car Dieu lui-même a fixé ces choses par sa propre autorité. Mais il leur dit, vous attendez. Attendez ce que le Père a promis, l'Esprit de Dieu. Christ ne leur a pas dit, le jour où l'Esprit viendra, il y aura un vent impétueux. Le lieu dans lequel vous serez tremblera. Il y aura des langues de feu. Il ne leur a pas donné tous ces détails. Il leur a dit, attendez ce que le Père a promis. Et le jour où ils ont vécu cette expérience, c'était des choses qui n'étaient point montées dans le cœur de l'homme. Que l'œil n'avait pas vu, que l'oreille n'avait pas entendu. Ils ont vécu quelque chose. Parce qu'ils se sont retirés, ils ont cru, ils ont prié et ils ont touché Dieu. Ils ont pris quelque chose dans le spirituel et ils l'ont ramené, si je peux dire. On a commencé à vivre ces choses. Et il y a tant de choses aujourd'hui pour nous les chrétiens que Dieu a mis en réserve, que nous devons vivre. Parce que Dieu nous les a données à nous. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de ces choses-là. Dieu nous les a données pour que nous puissions vivre ici sur terre, démontrer sa gloire afin qu'un plus grand nombre s'approche de Dieu et entre dans sa gloire. Et il y a tant de choses que Dieu peut faire avec vous, tant de choses que Dieu peut faire avec moi, tant de choses que Dieu a préparées pour nous qui avons cru, nous qui l'aimons. Et c'est par la foi que nous devons saisir ces choses-là. C'est par la foi que nous devons ramener ces choses-là afin de les palper, afin que ce soit notre vécu, que ce ne soit plus des choses qu'on lit dans la Bible, que ce soit plus des choses peut-être qui vont nous dépasser, mais que ce soit du vécu. Que ce soit du vécu. Et il faudrait y croire. Il faudrait y croire. J'imagine, peut-être à l'époque de Jésus, si on pouvait parler qu'un jour l'homme marcherait sur la lune, ce serait peut-être difficile à croire. Mais pourtant, Dieu savait, parce qu'il est Dieu, qu'un jour l'homme marchera sur la lune. Donc il y avait une possibilité que l'homme marche sur la lune. Il fallait que l'homme tout simplement fasse ses calculs et croie que je peux y arriver et qu'il tente la chose. Qu'il ait ce courage-là, cette audace-là, cette folie-là, de débarquer en zone inconnue. Il paraît qu'il s'était préparé. Il paraît qu'ils avaient peut-être des armes, ils auraient pu se défendre contre des éventuels extraterrestres. Je ne sais pas si ces armes auraient pu marcher, mais en tout cas, ils sont allés, ils ont osé. Ils ont tenté, on va dire, l'impossible. Et désormais, ce qui était une folie n'est plus une folie. Et aujourd'hui, ils veulent repousser les limites encore beaucoup plus loin. Et ils se disent, si on arrivait sur la Lune, pourquoi pas sur Mars? Pourquoi pas à tel ou à tel autre endroit? C'est comme ça que nous, les chrétiens, on devrait réfléchir. Il y a l'immensité de Dieu devant nous, la divinité de Dieu qui est tellement large. Et tous les jours, nous avons à puiser, à puiser, à puiser, parce que c'est une source intarissable. Mais c'est par la foi que nous y arrivons. Et on ramène ces choses. On a la pensée de Dieu. Les choses spirituelles deviennent des choses qu'on peut toucher, qu'on peut voir, que tout le monde peut vivre, que tout le monde peut expérimenter. Nous allons prendre Luc 17. Le verset 5, 6. Les apôtres dirent au Seigneur: augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Il vous obéirait plutôt. Romains 4, verset 19-21. Romains 4, 19-21. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On va prendre Jude. Jude 1, 22. Je prends la partie du verset 20, s'il vous plaît. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. On peut s'arrêter là. Tout simplement, je veux dire, un jour, le Seigneur se retrouve avec ses disciples. Et ses disciples, après une expérience, après avoir entendu les paroles du Seigneur, ils lui disent, ils avaient tellement envie de croire, tellement envie d'avancer, tellement envie de vivre les paroles qui sortaient de la bouche du Maître. Ils lui disent: Seigneur, augmente-nous la foi. Mais la réponse de Christ, c'était tout simplement de leur dire que si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à ce sycomore de se déplacer, de se jeter dans la mer. Et cela se ferait. On parle d'une grande foi, on parle d'une petite foi. Oui, la Bible des fois emploie ce genre d'expression, où après que Pierre se soit mis à couler, le Seigneur le prend et il le relève en lui disant: Pierre, pourquoi t'as douté? Homme de peu de foi. Et quelquefois dans la Bible, on a vu ce langage, peu de foi. Une foi grande, une foi petite. Mais dans les faits, ce n'est pas trop ça qui compte. Ce n'est pas trop de la manière dont nous les humains, on comprend la chose. C'est-à-dire, j'ai une foi comme ça, que je peux peser, que je peux quantifier, que je peux mesurer, et l'autre, il a une foi toute petite comme ça. Non. C'est tout simplement que le Seigneur voulait leur faire comprendre une chose. Il leur donne un exemple. Si vous prenez un grain de sénévé, il est tout petit comme ça. Et si votre foi était pareille à ce grain, seulement à ce grain, qui est tout petit, avec seulement cette foi-là, avec cette portion de foi-là, vous pouvez dire à ce sycomore de se jeter dans la mer. Et quand on prend un grain, aussi petit qu'il soit, si seulement ce grain est encore bon, si seulement ce grain a encore toute la consistance à l'intérieur pour pouvoir produire, si on le met à terre, il produira. Donc, pour obtenir quelque chose après avoir semé, cela ne dépend pas de la grandeur du grain, mais de la consistance de ce grain. C'est ce qui est le plus important. Parce que tu peux avoir un grain de maïs, tu te dis il est plus gros que peut-être la petite graine de tomate, tu te dis, ah, parce qu'il est plus gros, forcément il produira. Et la graine de tomate, parce que bon, c'est petit, elle ne produira pas. Mais non, si la graine de tomate, aussi petite soit-elle, elle est encore consistante, et elle est mise dans des bonnes conditions, elle produira. Ce que Dieu attend de nous, c'est une foi consistante. Et une foi consistante, c'est une foi qui repose sur la parole de Dieu. Une foi qui est remplie de la parole de Dieu. Parce que ce qui produit, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous ne croyons pas à n'importe quoi. Nous croyons à la parole de Dieu. Et c'est la seule vraie semence qui est capable de produire quelque chose en nous, qui est capable de déclencher une source en nous, et une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et si notre foi est consistante parce qu'elle repose pleinement dans la parole de Dieu, elle est inébranlable, elle est assise dans la parole, elle se nourrit dans la parole, elle est enracinée dans la parole, alors en ce moment-là, notre foi produit. C'est ça que Dieu appelle une grande foi. Et la foi qui est petite, c'est tout simplement cette foi-là qui croit en partie, qui n'est pas totalement affermie et fondée sur la parole de Dieu. Quelque part, elle perd l'équilibre. Elle finit par tomber. Elle ne tient pas par rapport aux épreuves. Parce que rapidement, une fois qu'elle est ballottée, elle perd son équilibre. Et une fois qu'elle est tombée, elle perd tout. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, comment faire pour avoir une grande foi? Si vous avez une foi petite comme un grain de sénévé, alors en ce moment-là, ça produit. Dieu nous demande d'avoir une foi consistante. Et cette foi-là doit se nourrir tous les jours de la parole de Dieu. Parce que nous ne croyons pas à la sagesse humaine. Nous ne croyons pas aux principes humains, mais nous croyons en Dieu. Et tous les jours, il nous faudra avoir cette parole dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il disait à Josué, fortifie-toi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Serre-le, grave-le dans ton cœur, serre-le fort contre toi, tous les jours, médite-le jour et nuit. Parce que Josué, avec l'épreuve qu'il y a devant toi, la charge que tu as, c'est vrai, tu crois, tu as été serviteur auprès de Moïse, tu as participé à beaucoup d'expériences, mais maintenant c'est à toi de diriger ce peuple. C'est une grande mission. Une mission lourde et difficile. Il faudrait que davantage encore ta foi vienne se reposer dans ma parole. Fortifie-toi. Prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nourris-toi de cette parole. Que ta foi s'enracine tous les jours dans la parole de Dieu. Alors, tu obtiendras le succès. Alors, tu réussiras dans tes entreprises. On revient encore dans Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4 dit ceci. Merci. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Romains 4. 3, 8. Romains 4, 3, 8. Pardon. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. On revient encore sur le fait que Dieu impute la foi à justice. Alors, tout simplement, la justification, où nous sommes justifiés en Dieu, cela provient tout simplement de la grâce que Dieu nous accorde. Parce que l'homme ne peut rien faire pour pouvoir obtenir quelque chose auprès de Dieu. Quand Dieu nous donne le fait que nous serons sauvés, le salut et toutes les bénédictions que Dieu peut nous accorder, le fait que Dieu nous agrée dans sa présence, c'est une grâce de la part de Dieu. C'est lui-même qui a ouvert la voie pour nous, afin que nous puissions accéder dans sa présence. Mais alors en ce moment, la foi nous permet maintenant de saisir la justification. Dieu nous le donne dans sa grâce. Il nous le donne dans sa grâce. Il nous l'a donné. La chose est là. Maintenant, pour saisir ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire que nous qui sommes justifiés en Jésus-Christ, pour pouvoir saisir cette justification-là, pour pouvoir réellement entrer dans la présence de Dieu, parce qu'il a ouvert la voie pour nous, cela se fait par la foi. C'est par la foi que nous croyons que réellement, quand le voile du temple a été déchiré, Dieu a tracé un chemin et que désormais nous avons accès à ce trône. Ce trône qui était autrefois, comme j'aime le dire, un trône de condamnation parce que c'était la loi. Tu as obéi ou tu n'as pas obéi. Ce trône devient un trône de grâce et nous pouvons nous approcher avec assurance dans la présence de Dieu. Donc Dieu nous l'a donné dans la grâce, mais au moyen de la foi, nous saisissons cela. Parce que si tu ne crois pas, cela n'a pas d'effet sur toi. Christ a versé son sang sur la croix pour nous pécheurs. Christ est mort réellement pour nous les hommes. Mais tant que par la foi on n'accepte pas ce sacrifice de Christ, tant que par la foi on n'accepte pas cette grâce que Dieu nous donne au travers le salut en Jésus-Christ, nous ne sommes pas sauvés. Pourtant, Dieu nous l'a déjà donné. Christ est mort et il ne mourra pas une deuxième fois, une troisième fois. Il nous l'a déjà donné. Il l'a fait une bonne fois pour toutes. Et tout est accompli. Mais par la foi, nous saisissons cela. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous justifie gratuitement, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous obtenons, c'est une faveur imméritée. C'est ça la grâce. Et par la foi, nous nous prenons possession de cette grâce. Par la foi, nous devenons enfants de Dieu. Parce qu'il s'est sacrifié. Maintenant, il faudrait que celui qui croit, celui qui le reçoit, devient enfant de Dieu. Lequel est né ni de la volonté de la chair, du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est encore Dieu qui donne. Et tout ce qu'il nous demande, nous, c'est de saisir par la foi. Donc la foi nous permet d'entrer en possession du plan salvateur de Jésus-Christ. Et le plan salvateur de Jésus-Christ, c'est la justice que Dieu nous donne, c'est la grâce, c'est la vie éternelle. Et la démarche de la foi nous permet de saisir ces choses et de dire, Seigneur, je crois. Et je sais que parce que tu es mort pour moi, je suis justifié à cause du sang qui a coulé. Je sais que ce sang qui a coulé a effacé mon péché. Il n'a plus couvert mon péché comme autrefois, parce que tu as rejeté ces premières choses. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Mais Seigneur, désormais, à cause du sang de l'agneau, j'ai accès dans ta présence. Et je crois à cela. Et la foi me permet de toucher à ces choses, de vivre ces choses pleinement. Et nous avons cette assurance dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit maintenant vient dans nos cœurs pour témoigner que nous sommes réellement enfants de Dieu. À cause de la foi. Nous allons la prochaine fois continuer avec l'espérance. Que Dieu nous bénisse.